que l'épiscopat français a mis en garde contre le nouvel âge. Alors du coup, moi je me précipite depuis. Hop, l'épiscopat a dit il fallait. Alors là, je me gêne plus du coup. Le nouvel âge, c'est l'ensemble. C'est une offensive à un niveau international, au point de vue spirit, mystique et religieux, de préparation à la manifestation de l'Antéchrist. C'est l'accumulation, tous azimuts, de toutes les sortes de familles, sectes et loges initiatiques. Alors, il y en a plein, ouais, je ne sais pas. Amorque, Rose-Croix, Martinis, toutes sortes de loges, mais pas seulement ça, il y a aussi les familles du style Scientologie, églises diverses qui sont en train de naître, de même que les églises consacrées à Satan, luciférianisme. Il y a là-dedans aussi le Nouvel Acropole, enfin toutes sortes de. Anthroposophes aussi, oui, bien sûr, la sophrologie, des choses comme ça. La sophrologie poussée un petit peu au bout d'un certain temps, ça fait partie du nouvel âge. Au début, bien sûr que non, parce que la sophrologie. Donc, vous voyez, toutes sortes de nouvelles trucs qui apparaissent, toutes sortes de mancies, de choses, qui s'accumulent, qui superposent comme des vagues les unes sur les autres et constituent finissent par constituer un seul océan, qu'on appelle le Nouvel Âge, qui a au fond qu'une seule fonction, c'est de préparer l'ère du Verseau et d'enterrer le christianisme, puisque l'ère du poisson se termine. Grosso modo, c'est le point commun entre tous, c'est ça. Alors, parmi tous ces pratiques, on trouve toutes sortes de bouquins qui traînent partout, notamment avec l'anthroposophie, scientologie, et la remise à jour d'un certain nombre de pratiques qui avaient été découvertes, je vais dire, au bas Moyen-Âge. Et ce sont des pratiques donc de parapsychologie, de sorcellerie, de magie blanche, et avoisinant. Alors donc, le magnétisme maintenant, au milieu de tout ça, enfin, alors, le magnétisme, l'hypnose, comment placer l'hypnose, le magnétisme, le fait de trouver une source avec des baguettes, etc., par la radiesthésie, par rapport à ça. Alors, voilà. Ma question, c'est ça, hein, d'accord? Alors, il faut distinguer cinq niveaux. Vous avez en vous le point de vue, donc, de la nature. Vous avez une potentialité naturelle, normale. Au-delà de ça, il y a certaines personnes qui ont des pouvoirs naturels, parfaitement naturels, humains. Bon, ben, que n'ont pas les autres. Par exemple, vous baladez au-dessus d'un torrent qui passe à 20 mètres en dessous du sol, et vous vibrez littéralement. Vous sentez que l'eau passe en dessous. Si vous prenez une baguette dans la main, comme ça, vous la mettez dans la main de Danita, ça fait rien du tout. Ça, c'est naturel. Il y a des gens qui ont des pouvoirs naturels. C'est parfaitement naturel. Moi, c'est un jour, comme j'allais à Aiguillon, près de Montmorin, voir chez des sœurs trappistines, une ancienne communiste qui s'est fait trappistine et qui construisait là. On dirait, Père Patrick, venez voir là, je suis sûr qu'il y a de la flotte qui pousse. Il y a de la flotte qui est là, parce que là-bas, à 300 mètres, et là-bas ça coule. Alors là, ça passe juste là en dessous. Ah, super, c'est possible, c'est très très bien. Et regardez, il suffit de prendre des trucs en laiton. Hop, arrivé dans la main. Alors elle me met un truc en laiton dans sa main, comme ça, vertical, à 90 degrés, un dans chaque main. Et puis elle commence à avancer vers l'endroit présumé où ça coulait en dessous. Alors moi, je me suis dit, cette sœur Mireille, vraiment, elle déboule sans arrêt. Alors j'ai pris deux brins d'herbe, deux brins de paille, qui étaient par terre,
J'ai cassé en deux et je me suis séparé.
Avec. Elle commence à avancer et moi derrière. Alors au moment où elle passe son truc en laiton, faisait vaguement comme ça. Et moi je passe avec ma paille. Je suis encore deux pas. Ça se remettait normal. Oui, mais les gens qui ont plus de pouvoir naturel que eux. Que c'était conducteur même sur ta paille. Bon, enfin bref. Donc oui, il y a des pouvoirs naturels. L'hypnose fait partie de ça. Ceci dit, il faut faire attention parce qu'il y a un troisième stade. Un troisième stade où on commence à rentrer en parapsychologie, enfin dans un monde qu'on appelle préternaturel. Le préternaturel, c'est des pouvoirs qu'on a, de fait, qui semblent naturels, mais qui relèvent d'un atavisme antérieur, des parents, de lieux, etc., dont on ne sait pas très bien l'origine, ou du moins on se doute que le préternaturel n'est pas d'origine très nette. Donc si vous voulez, vous avez effectivement un pouvoir, une réelle efficacité dans tel et tel domaine, mais vous ne savez pas si c'est d'origine nocive ou pas. L'exemple classique qu'on prend, c'est le repos du Saint-Esprit. Ça. Le repos du Saint-Esprit, dans certains groupes charismatiques, quand, dénoncé par le cardinal Suenens, où vous voyez, vous rentrez dans des groupes charismatiques, vous arrivez l'un après l'autre, et si le Seigneur vous a exaucé, vous tombez par terre. Il suffit que le charismatique soit là, gloire à toi Seigneur, bon Seigneur. Oh Jésus, oui, béni soit tu, gloire à toi. Alors un de mes beaux frères, ça qui était médecin, critique, gros, hein, c'est énorme, c'est un agile. Hein. Ceux qui le connaissent, c'est le mari de ma soeur Mamouri. Il lui a donné 7 enfants pour l'instant. Dans les 3 dernières années, ils ont aidé à fonder la fameuse mission du Gabon. La fondation du village du Dalaba, la conversion de l'archevêque, la restructuration de toute l'évangélisation du diocèse, la fondation d'un hôpital, la fondation d'un mouroir et d'un hôpital de profit. Tout ça, évidemment, à titre archi-gratuit, en dehors de leurs occupations normales, puisqu'en plus, bien sûr, ils avaient leur profession. Ah oui, c'est bien. Donc Gilles, un type bien assis. C'était mon copain en terminale, c'est pour ça qu'il s'est marié avec ma soeur. Il était devenu mon copain parce qu'il avait un œil sur ma mourine. Je l'ai su qu'après. C'est que ma mourine est splendide. Alors donc, il s'approche, il dit c'est pas possible, à chaque fois il regardait bien. Le Seigneur, là on l'a vu, soulevé. Ça fait un bruit de pouvoir. Le pouvoir préternaturel. Vous savez, d'où ça vient, ça? D'où ça vient, ce truc du genre? C'est le pouvoir, ce charisme. Enfin, moi, je préfère dire pouvoir pour ça parce que, bon, enfin, disons charisme, pouvoir, comme vous voulez. D'où vient-il? Quand Kim est venu en France, elle a vu par exemple ma sœur Catherine, Marie-Catherine, elle l'a trouvé sympa. Elle a dit, je transmets. À partir de ce moment-là, elle me disait, Marie-Catherine, si elle priait comme ça, et l'autre, les entendait. Elle a dû prier beaucoup pour que ça s'arrête. Et qui me l'avait obtenu de qui? Ah, qui me l'avait obtenu dans l'église pentecôtiste? Dans l'église pentecôtiste, l'avait obtenu de qui? Etc. Ça remonte à quoi, au moment donné? C'est ça le problème. C'est un pouvoir qui se transmet. Alors dans le monde préternaturel, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire ici que, en l'occurrence, le repos du Saint-Esprit, pour prendre l'exemple précis, soit un charisme. Moi, je ferai très attention. Très, très attention. C'est un pouvoir, et il vient probablement
comme le suggère le cardinal Thunens, deux cercles d'il y a un siècle et demi qui étaient diaboliques. Alors ça a été baptisé, alors c'est ce qu'on dit. Oui, mais si ça a été baptisé, il n'y a pas de problème. Il dit attention, attention. C'est la troisième zone, il faut quand même faire très attention. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire qu'il y a infestation. Il n'y a pas encore infestation. Quatrième zone, c'est quand j'utilise donc cet ensemble de pouvoirs que j'ai. Par exemple, je reçois comme Madame Soleil plein de gens chez moi. Et puis, pour aider, ou alors j'ai un pouvoir de guérison, d'enlever les déplacements de vertèbres, etc. Et je m'aperçois. L'aura. Ah, c'est merveilleux, j'ai le pouvoir. Quand je te vois, je vois l'aura. Je vois la lumière. T'as une lumière bleue, ou une lumière verte, une lumière grise, qui se dégage. Et en fonction de ça, je vois la spiritualité, je vois la qualité particulière de ta vie. Ouais, il y a des gens qui voient les auras. Des gens qui voient très très bien les auras. Et là, c'est nécessairement au quatrième degré. Vous voyez, on ne peut pas voir les auras sans une initiation avec association des puissances intermédiaires. C'est impossible. Alors, à quoi sert ce nouvel âge ? Alors, il y a des bouquins pour ça aussi. Les jeunes s'y préparent en ce moment. Oui, on y prépare les jeunes de manière massive et collective grâce à ce qu'on appelle les jeux de rôle. Les jeunes, déjà, au bout de 2 ans de jeux de rôle, sont capables de voir des auras. Et ils sont associés d'une manière sous forme de jeu aux puissances intermédiaires et ils sont capables, en effet, d'avoir un certain nombre de pouvoirs dans les jeux de rôle. Parce que j'étais allé aumônier à l'école de Sorès, promener dans les couloirs, j'étais capable de dire, tiens, celui-ci, il a fait 5 ans de jeux de rôle, celui-ci, il en fait au moins 4 ou 5. Quand je disais des jeux de rôle à même vite. Les jeux de rôle, c'est une espèce de jeu style Monopoly, mais avec des dés, etc. Où on se met dans la peau des gens. Alors, quelquefois, j'en avais qui, au bout de 4-5 ans, étaient littéralement possédés par le démon, uniquement par les jeux de rôle. On avait une possession démoniaque, uniquement avec le jeu de rôle. Mais il faut un certain temps, quand même. C'est assez impressionnant, ça. Pourquoi le jeu de rôle, du reste? Pourquoi le nouvel âge? Pourquoi toutes ces pratiques? Pourquoi cette diffusion extraordinaire de tout ce milieu initiatique? C'est pour préparer, justement, ce que je vous disais, la manifestation de l'Antichrist, dont Daniel a parlé au serment encore aujourd'hui. La manifestation de l'Antichrist qui doit se manifester, en effet, d'ici probablement la fin du XXe siècle, d'après la Vierge de Fatima, qui semblerait approuver que cet homme est déjà né. Bien sûr. Alors ça sert à quoi? Je pense par exemple à une chose. J'ai lu un bouquin de quelqu'un qui est médecin. Enfin, les nouveaux médecins. Une nouvelle école médicale. Maintenant, aux États-Unis, c'est fini, on va plus voir le psychiatre, le psychanalyste, c'est fini, c'est complètement terminé. On va voir justement les gens qui sont sortis de ces 2 ou 3 universités aux États-Unis et qui soignent de la manière suivante. Vous mettez sur un divan, on fait une petite musique sympathique pour mettre votre cerveau sur le régime ondulatoire des ondes alpha ou bêta ou gamma du cerveau, je sais pas. Celle qui prend le demi-sommeil. Et la voix du praticien est coordonnée, j'allais dire, avec ses ondes. Et puis il vous dit, et confiance, etc. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez bien? Fermez les yeux. C'est qu'au bout d'un certain temps, imaginez, voyez, considérez, il y a au-dessus de vous quelque chose qui vous protège, une espèce de présence de lumière, une boule de lumière, tout au-dessus de vous. Absolument merveilleux. N'ayez pas peur, hein, si ça vous effraie, mais normalement, il y a quelque chose de très beau, de très grand, très doux. Ah oui, je le vois, oui. Oui, je sens, oui, très bien. Ah bon, alors montez. Montez. Montez dedans. Alors, ils montent dedans. Et donc, on leur fait pratiquer la décorporation. Le voyage, c'est la sortie de l'âme du corps. Qui monte, j'allais dire. Et qui va revivre une de ses vies antérieures. Le malade va vivre une de ses vies antérieures, puisque d'après, donc, un des grands points communs du Nouvel Âge, c'est que c'est la réincarnation, à savoir que nous avons vécu, avant cette vie-ci, toutes sortes de vies antérieures. C'est pas du tout, il est évident que ça ne va pas du tout avec réponse à ça. Ah, ça, faut connaître la réponse. Épître aux Hébreux, je crois que c'est chapitre 9, sauf erreur, mais j'en suis pas sûr. L'homme ne vit qu'une fois, l'homme ne meurt qu'une fois, l'homme ne vit qu'une fois. C'est très net. En tout cas, vie antérieure. Alors, le type, là, je pense par exemple, il donne plein d'exemples. Et c'est, au lieu de passer 50 psychanalystes pour résoudre un problème douteux, genre, douteusement un problème, pour vous en surajouter d'autres après, du reste, même si vous avez résolu celui-là. Bon, mais si c'est une névrose vraiment pénible, je reconnais qu'il faut peut-être mieux le faire, mais... Donc vous allez voir ce type-là, il vous fait faire ça, et en 2 heures, vous êtes guéri. C'est spectaculaire. En 2 heures, vous êtes guéri d'une névrose obsessionnelle, vous êtes guéri d'une conversion somatique. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'une conversion somatique. C'est quand vous avez un problème particulier, tiens, le médecin va nous expliquer. Ça se traduit sur le plan du corps. Alors votre jambe se paralyse d'un seul coup. En fait, ça vient d'un blocage névrotique ou même psychotique. Alors il y avait par exemple, je pense, cet exemple-là, un type qui était manuel, c'est son travail, c'est un travail de précision, c'est sa profession. Mais en raison d'une conversion somatique, tac, sa main de temps en temps se bloquait. Très commode, il fait en l'air tout le travail. Donc il est allé voir le médecin, qui s'appelle Patrick d'ailleurs, docteur Patrick. Je ne plus son nom, ah, c'est trop bête. Et c'est pas rien. Il vient le voir. Il monte dans la boule de lumière, il dit « Oh, comme c'est curieux, qu'est-ce que je suis sale, là ?»« Montrez-moi, dites-moi comment vous êtes, qu'est-ce que je suis sale ?» Et le dialogue continue pendant qu'il est dans sa boule, une fois qu'il est sorti de son corps. « Oui, mais vous êtes où autour de vous ?»« Ah, oui, oh, bah dites, il y a du monde, hein. Oh, et où est-ce que vous allez? Qu'est-ce qui se passe ?»« Bah, je sais pas, j'ai l'impression d'être une charrette, on m'amène. » Enfin bref, il revit quelque chose qu'il a vécu dans une vie antérieure, où on le met sur un échafaud et où on lui coupe la main parce que c'était un sorcier. Il avait fait de la magie noire, on lui avait coupé la main dans une vie antérieure. Et c'est cette âme qu'il avait vécue dans cette vie antérieure qui était à l'origine donc, de la névrose qu'il constatait dans cette vie actuelle. Et à partir du moment où il l'a réalisé, il est revenu donc dans son corps et il n'a plus jamais de névrose. Et de conversion somatique sur ce point. Donc là, voilà, vous avez donc ici la preuve scientifique de la vérité de la réincarnation. Puisque au point de vue scientifique, ça suffit pour faire une preuve. Ah, vous voyez comment on va être coincé, hein.
Il y a tout le temps des articles.
Ah oui. Alors, donc, au point de vue scientifique, ce sera irréfutable la réincarnation.
Comment vous expliquez cette vision-là alors,
alors Donc voilà, le type, il va vous dire, vous allez lui dire, mais moi, tu es chrétien, mon petit, tu ne peux pas croire à la réincarnation. On a fait une statistique, 40% des catholiques pratiquants pensent que la réincarnation est la seule solution. Donc 40% ont perdu la foi. Des pratiquants. Des pratiquants. Mais évidemment, parce que c'est avec des trucs comme ça, ça devient irréfutable. Et le type vous dit, mais non, t'as pas eu de vie antérieure. Écoute, je le sais pas, j'avais ça. Je ne l'ai plus. Et c'est uniquement parce que j'ai revécu ce que j'ai vécu. Que j'ai... Donc c'est lié, ça prouve bien que c'est la même âme qui... Vous comprenez ça? Donc tu vas quand même pas emmerder. Alors, comment tu veux expliquer ça?
C'est l'imagination.
C'est pas l'imagination du tout. Mais c'est pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà ce qui se passe. Je vous explique en deux mots. C'est que vous êtes sur votre divan. Oui, j'en avais parlé beaucoup avec mon lama tibétain, ça, un petit peu. Mais c'est évident. C'est un cal. C'est les cales qui font ça. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que les cales? Cachal.
Cachal.
Les cales, c'est un terme tibétain. Les kalous, les kalas, les kalas. C'est des espèces de génies intermédiaires, donc nous ce qu'on appelle les anges, quoi, des anges. Alors, c'est un cal qui est là. Alors, tu montes dans la cale parce que tu ne peux pas te décorporer sans l'aide d'une puissance intermédiaire. Donc, tu ne peux pas vivre un voyage astral sans l'aide d'une puissance intermédiaire. Donc, tu rentres dans un démon, si tu veux, qui est en fait une lumière très agréable. Le démon, lui, étant donné que c'est sorcier, parce que tu revis toujours ce qu'a vécu une traîtresse, ou un prêtre d'Égypte, ou alors un magicien de machin, ou un sorcier de l'Inquisition, ou alors bon, etc. Forcément, vous remarquerez, c'est toujours ça. Ouais, c'est un truc, ou un espèce de moine qui faisait de l'alchimie et tout. Bon. Et bon, ou autre, bon, enfin bon, des gens, donc, où le démon a pu, j'allais dire, habiter et expérimenter de manière sensible ce que ce type-là avait vécu. Donc ça fait partie du capital de vie et de mémoire et de retransmission du démon. Et donc le démon, si on se précipite en lui, il peut faire revivre dans notre chair, dans notre âme. Il peut très bien faire revivre exactement, physiquement, parce que dans ces moments-là, vous le sentez physiquement. Vous le sentez vraiment dans une peau. Et vous revivez physiquement. Donc vous revenez, vous avez résolu votre problème névrotique, mais vous êtes possédé par le démon. Mais en fait, c'est pas du tout une vie antérieure, c'est simplement qu'il avait donc habité une personne humaine il y a 4 siècles, 5 siècles, et qu'il sait très bien, lui, le démon, qui est dans son intelligence métallique, il est des milliards de fois plus intelligent que nous, dans son intelligence métallique, il sait exactement quel est le point dans votre psychologie où vous avez un problème. Et donc, il sait exactement dans son capital de connaissances et d'expérience vécu à travers ceux qui se sont donnés à lui par le péché, ou directement par la donation, ou par la sorcellerie, il sait exactement la chose qu'il faut faire revivre, qu'il faut faire revivre physiquement pour vous dénoyauter, mais vous êtes possédé à la sortie.
C'est parce qu'il sait, parce qu'il peut guérir.
Le démon sait très bien quel est ton problème. Le démon, c'est l'amour. Si tu te donnes à lui dans le péché ou autre, il sait parfaitement toutes tes failles psychologiques. Non, il n'a pas de pouvoir de guérison. Il n'a de pouvoir de guérison que si tu te donnes à lui pour ça. Donc l'antéchrist, vous voyez, aura un pouvoir absolument fabuleux de guérison universelle. C'est pour ça qu'il fera l'unanimité. Quand on parlera de réincarnation, celui qui dira c'est de la connerie aura l'air d'un imbécile, évidemment. Parce que c'est quand même prouvé scientifiquement. Quand même. Vous voyez tout ce domaine, donc, de la décorporation, des pouvoirs, etc., sont du magnétisme, sont pour nous habituer, petit à petit, à tout ce domaine de l'âme. Parce que l'aura, c'est l'âme séparée du corps. Tu vois? Tu ne peux pas voir une aura si tu ne mets pas sur ton œil. Si tu mets pas ton œil un peu en recul par rapport à son globe oculaire. C'est ça la technique. Hein, tu mets ton un peu en recul. Alors, donc tu mets ton âme qui anime tes yeux en dehors de la partie corporelle de ton œil. C'est une séparation du corps et de l'âme vécue à ce niveau-là qui te permet de voir des auras. Tiens, alors on voit très très bien dans quel sens ça va. Ça va dans le sens de s'acclimater petit à petit à séparer son âme de son corps et puis, par conséquent, si tu veux, bien sûr, à faire appel aux puissances intermédiaires. Parce que plus je vais loin dans ce domaine, plus je vais avoir besoin des puissances intermédiaires. Opération terminée, nous allons passer à la table.